Je sais pas vous, mais à chaque fois que j'entends cette chanson-là, ça me redonne le goût de voir le film qui fait en sorte que je trippe cinéma encore aujourd'hui. La première fois que je suis allé voir Pulp Fiction au cinéma de Chicoutimi, la Place du Royaume, on dirait que tout a explosé dans ma tête. C'est vraiment le film qui a fait que j'ai commencé à tripper sur les films,
ouais.
On peut le dire comme ça. Trainspotting, pas longtemps après.
Ah, mais c'est une belle période.
Ouais.
Hein?
Les deux films qui sont rentrés coup sur coup de mémoire.
Deux films fuckés avec des trames sonores qui ont passé à travers le temps.
Exactement. Des très bonnes trames sonores, ouais. D'ailleurs, que se disputent de nombreux collectionneurs de vinyle.
Ah, oui, hein?
Ben oui, ben
c'est
oui.
Rendu que tu chicanes avec eux.
Non. Je suis pas très... Je fréquente des groupes Facebook, mais je ne commente jamais.
OK, un zombie ouais. Du vinyle.
Exactement, parce que je sais que même sur des sujets aussi futiles et infantiles, la chicane peut pogner, puis j'aime pas ça, la chicane. 418-971-1021 pour nous rejoindre en studio. Elle a eu une grosse journée au Palais de justice, et comment mieux se reposer de toutes ces histoires que de revenir les expliquer le soir à la radio. Judith Demel, journaliste judiciaire pour le journal Le Soleil. Bonjour.
Allô.
Ça va bien?
Ça va bien, vous autres?
Trois histoires aujourd'hui, puis il faut prendre le temps de faire le tour. La première fait énormément réagir. Les permissions de sortie concernant l'égaré, le gars qui a fauché une famille mortellement alors qu'il conduisait en état d'ébriété.
Oui, donc la Commission des libérations conditionnelles du Canada a accordé les sorties à Éric Légaré. Là, ça fait moins de 5 ans qu'il est derrière les barreaux. Puis lui, il avait été condamné à 16 ans de pénitencier, qui était évidemment une peine exemplaire jamais donnée là, en termes d'alcool au volant. Et puis, évidemment, c'est pas ce que la famille des victimes voulait. C'est pas non plus ce que les services correctionnels avaient recommandé à la commission, mais la commission a jugé que Éric Légaré était rendu là dans son cheminement et qu'il devait commencer une réintégration graduelle.
Dans ce processus-là, les membres de la famille décimée ont eu à revenir en cours, exprimer leur point de vue?
Oui, c'est le temps offert aux proches des victimes de s'exprimer, à savoir qu'est-ce que les sorties de cet individu-là ferait dans leur vie. Évidemment, pour la famille Fletcher, là, parce que c'est la famille Fletcher majoritairement, évidemment, qui est victime de cette collision-là. Puis ça les avait plongés dans une grande détresse. De penser croiser cet individu-là à l'épicerie ou dans la rue était vraiment une source d'anxiété et de tristesse. Et il avait bien imaginé le père de Jackson Fortin, un des enfants décédés dans la collision, avait dit justement que lui avait une peine à perpétuité, évidemment, sans son fils. Et que, bon, Éric Légaré, lui, allait pouvoir sortir après moins de 5 ans.
Quand tu empêches une famille de vivre, il me semble que la plus simple des sentences, c'est de pas te donner le droit d'aller voir la tienne pour entretenir des rapports familiaux. Est-ce que dans le monde des médias qui suivaient ces causes-là sur un beat régulier, vous êtes surpris quand une sentence, quand une décision comme celle-là tombe? Parce que, bien honnêtement, Judith, dans le public, on comprend à rien. À rien.
C'est sûr que c'est surprenant. C'est aussi, tu sais, là, je vous la résume en quelques secondes. La décision, elle est quand même sur plusieurs pages, puis elle est justifiée et analysée. Et c'est des commissaires qui l'ont rendue, qui font ça tous les jours, là. Ils savent ce qu'ils font. C'est ce que j'aime dire. C'est sûr que de voir les réactions rentrer et de voir l'indignation que ça génère, c'est sûr que ça pose des questions.
C'est parce que ça enlève le mot exemplaire de sentence exemplaire.
Bien, un peu. Puis, tu sais, on dit souvent que bon, qu'ils sortent après le tiers de leur peine, qu'ils ont des sorties et tout. Puis là, ça fait même pas le tiers. Puis il peut sortir pendant 72 heures chaque mois pour aller voir sa famille. Tu sais, c'est quand même beaucoup là, aux yeux de tout le monde, pas juste la famille Fletcher.
Il y a une permission qui a été refusée et permets-moi, Judith, de lire un bout de ton texte et de faire un Denis Lévesque de moi-même. On refuse toutefois les sorties pour perfectionnement personnel à des fins de réadaptation. Ça, c'est pour aller faire des mamours avec sa copine.
Ben, ça n'a pas été expliqué comme ça, mais on a, c'était une, peut-être une femme qui pourrait être une copine.
Mm-hmm.
Et on le sait qu'elle a ce statut-là. Elle a été bon, rencontrée par les experts, puis c'est comme ça que ça a été présenté. Et oui, il y a un potentiel peut-être amoureux. Puis ça, on...
C'est ça du perfectionnement personnel?
Bien, ça, c'est les noms qui sont utilisés dans le jargon là, des services correctionnels. Il y a beaucoup de choses qui sont mises là-dedans.
Ce soir, chérie, on couche les enfantos et on fera du perfectionnement personnel à des fins de réadaptation.
Puis tu vois, ces sorties-là ont été refusées parce que la commission a jugé que ça pourrait le mettre dans un état émotif plus instable. Si, admettons, ça ne fonctionne pas avec cette dame-là. Donc, il peut juste sortir pour aller voir sa famille, ses parents.
Quand la décision a été rendue, est-ce que les membres de la famille des victimes sont présents ou...
Non, c'est vraiment une décision qui est rendue, qui est envoyée par courriel.
Donc, ils viennent faire leur témoignage, eux autres, après ça, ils retournent à la maison.
En fait, c'est en ligne. C'était en ligne. Les audiences, tout le monde a fait ça par Teams. Les commissaires étaient en Teams aussi. Ensuite, ils se sont rencontrés. Ils ont travaillé sur la décision durant les derniers jours, puis ils l'ont envoyé là, à tous les principaux intéressés ce matin. Puis j'ai échangé quelques mots avec le père de Jackson et évidemment, il avait besoin de temps pour digérer la nouvelle. Il était sans mots, mais probablement qu'il va s'exprimer là, dans les prochains jours.
Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de recours pour ces gens-là? Après la décision de la commission des libérations conditionnelles, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, me demander une révision? Je ne sais pas trop comment ça fonctionne à ce niveau-là.
Tu peux faire valoir tes inquiétudes et ce que tu en penses. Tu peux continuer à envoyer des lettres. Et à ce moment-ci, la commission se donne le droit de réviser ces sorties-là à tout moment. Donc, c'est à suivre.
Fait que la personne qui a tué une famille conserve le droit de voir la sienne pendant sa sentence qui n'est pas terminée, si on résume en gros.
Ouais.
Terrible. Autre histoire, Judith. Il y a deux gars qui ont pogné les mouches pas mal après deux ados pour une niaiserie, puis ça a fini éveillé, là, à grands coups de bouteille d'en face.
Ma mère m'a toujours dit, fais attention à ce que tu fais, tu sais jamais à qui t'as affaire.
Oui, puis c'est le genre d'histoire qui marque beaucoup parce que c'est bon, ce que j'appelle une banalité qui finalement entraîne de lourdes conséquences dévastatrices, là, désastreuses. Et vous allez voir dans le récit, là, ce sont deux hommes adultes qui traînaient là, en août 2024 au bar Le Bretzel, qui est, je crois, dans Beauport.
Boulevard Saint-Anne, si je ne m'abuse.
Oui.
Oui, un endroit sélect du boulevard Saint-Anne.
Ça, c'est toi qui le dis.
Mm-hmm. La bière n'est pas chère.
Puis, à un certain moment, un des amis, c'est Jérémy Manceau, qui a 21 ans à ce moment-là, et son ami Alexandre Lorion, qui a, lui, 38 ans. Ils sortent dehors avec une... Puis Jérémy Manceau, il a deux bouteilles de verre à la main, de bière, en verre.
Ils sont sortis avec les bouteilles.
Bon. Le reste, là...
Présumons.
Voilà. Il est sorti avec la bouteille de verre. Puis, au même moment, ils sont dehors, ils discutent. Puis là, il y a deux adolescents qui, eux, marchent sur le boulevard Sainte-Anne et s'en vont dans un party à la résidence d'un ami. Et il y a un des ados qui crie « Yo, le cracou » aux gens qui sont au bar.
C'est très ado, là.
Ah, « Yo, cracou »
Les deux jeunes ont 16 ans.
Ah oui.
C'est des flots. C'est des flots.
Ça aurait tellement pu être moi, là.
Puis, ça aurait pu être... N'importe qui nous autres à 16 ans.
Ben, c'est ça que je vous dis. Puis même qu'on aurait pu dire pire, qu'on aurait pu... On le sait, là, adolescents, des fois, ça dit n'importe quoi.
J'imagine qu'au palais de justice, ça a été abordé. Parce que moi, le langage des jeunes, je suis rendu vieux.
Tu veux savoir ce que ça veut dire,
je peux pas t'aider.
Tu peux pas me définir qu'est-ce qu'un cracou?
J'ai des suppositions.
Oui, consommateur de crack, peut-être.
Je m'avancerai pas.
Où il s'est enfargé dans sa gorge, puis il voulait juste dire cacou.
Je pense que...
Internet me disait que cracou, c'était un terme affectueux pour, mettons, un crack de l'informatique, mais je pense que ça n'a pas suivi la traduction.
Non. Cracou de l'informatique? Non, je pense, pas que c'était ça le message. Non.
Décidément, cette insulte-là lancée a choqué les personnes près du bar et Alexandre Lorion s'est mis à courir après les adolescents.
Après un ado de 16 ans.
Oui, Alexandre Lorion, j'ai retenu son âge, c'est 38 ans, hein?
Oui.
OK.
Donc, il court après les ados.
38, tu sais
jeune
quoi?
De cœur, tu sais.
Puis, les ados réussissent à atteindre la maison de leur ami, puis il y en a un qui réussit à entrer à l'intérieur, puis l'autre se fait attraper par les épaules par Alexandre Lorion. Là, son ami, il ressort dehors.
C'était qui, cracou, d'un d'eux?
Excusez, non, je...
Ouais, on sait-tu c'était qui, Krakow, dans le fond? Yo, Krakow, c'était...
Là, je m'en tiens à la version du tribunal.
OK, t'as un X aussi,
c'est éloigné, bon. Là. Oui. Puis là, quand il est ressorti pour crier à Alexandre Lorion de lâcher son ami, ben Jérémy Manceau est arrivé par la suite avec les deux bouteilles de vitre dans les mains puis en a lancé une au visage d'un des ados de 16 ans.
C'est terrible. La violence de ce geste-là me sidère.
La bouteille a éclaté. Ça saignait. On a appelé la maman du jeune. Elle est venue le chercher, direction l'hôpital. Je l'ai marqué dans mon texte, là, je veux dire, il a perdu presque la moitié de ses dents. Les dents qui restent sont attachées par des tiges de métal.
Oh. Des flots de 16 ans qui ont crié « Hey, Krakow! »
Puis, tu sais, 16 ans, c'est parce que là, t'es à l'école, t'as une job d'étudiante, tout ça, il a dû arrêter ça. Difficulté à parler, difficulté à se concentrer. Puis là, on n'a pas fait état des conséquences de ces blessures-là sur la vie de ce jeune-là, parce que ça va être lors des prochaines étapes du processus judiciaire. Mais la procureure a noté que les conséquences sont désastreuses, dévastatrices, là. Et la mère était présente en salle de cour hier pour le plaidoyer de culpabilité, parce que, bon, les deux adultes ont plaidé coupable à lui qui a lancé la bouteille, ses voies de fait graves, puis lui qui avait tenu le jeune par les épaules, ses voies de fait.
Ils ont plaidé coupable.
Ils ont plaidé coupable hier. Puis là, ils ont demandé un rapport, donc un agent de probation qui va analyser les deux individus, puis ensuite, on va pouvoir infliger une peine.
OK.
Et évidemment, la famille entend s'exprimer là, lors des prochaines...
J'espère. Donc, on verra la suite pour les deux beaux Krakow. Revenir sur l'histoire du coach de cheerleading, parce que ça a l'air qu'il vous a donné un bon show cette semaine en racontant sa version des faits, une version remplie d'amour et de transcendance.
Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il avait témoigné pour sa défense. Faut bien que je te reprenne un peu. Il a témoigné pour sa défense. C'était à lui de livrer sa version des faits. Et... Ben, il y a d'abord, je vous rappelle, Mathieu Martel est accusé de plusieurs crimes sexuels sur 11 plaignantes mineures, toutes d'anciennes élèves de Mathieu Martel pendant qu'il coachait au cheerleading ou en gymnastique. Puis, ces filles-là, bon, on dit qu'il y avait un climat toxique entourant le cheerleading causé par Mathieu Martel avec, bon, des touchés aux fesses, aux seins pendant les pratiques. Il y avait des commentaires déplacés. Il y avait des attouchements sexuels quand on allait en compétition de cheerleading ou pendant les sorties. Puis, on allègue même, là, agression sexuelle complète sur une plaignante, notamment, là, de 14 ans.
Oui, 14 ans.
Donc, Mathieu Martel a commencé par se présenter. C'est arrivé rapidement là, sur les crimes. Puis, d'entrée de jeu, lui, il reconnaît avoir dit des jokes de cul, pour reprendre ses mots, souvent, et d'avoir eu des commentaires sexuels déplacés. Mais il disait que, depuis le temps, bon, il est devenu plus mature, puis qu'il comprenait que ça se disait pas, mais qu'à l'époque, c'était drôle. Et lui maintient, il dit que tout le monde trouvait ça drôle, que tout le monde faisait ces commentaires-là, puis qu'au sein du cheerleading, c'était courant, ce genre de langage-là. Donc,
et
on l'a questionné.
J'entends des coachs de cheerleading crier jusqu'ici, là, en ce moment.
Ben, puis je vous en ai donné des exemples de ce qu'il disait, puis il nous en a redonné pendant son témoignage pour envoyer les hanches vers l'avant, il disait « donne un coup de pénis vers le ciel ». Ça, c'est un exemple de choses qu'il disait. Puis lui, il reconnaît l'avoir dit. Il disait aux filles d'être plus charrues pour avoir plus d'attitude. Il disait pour que les filles se tiennent droites, là, les voltiges, il disait « ben faites comme si vous aviez quelque chose dans les fesses ». T'sais, c'est le genre de choses qu'il disait, puis lui reconnaît qu'il a dit ça. Et puis, ensuite est venu le temps, est-ce que c'est vrai que vous avez communiqué avec, bon, les adolescentes, puis qu'il y a eu... Les filles disent qu'il a envoyé des photos de son pénis. Lui dit que non, qu'il n'a jamais envoyé ces photos-là. Il dit qu'il n'a jamais eu de contact sexuel. Quand est venu le temps de parler de la plaignante, là, qui, là, on allègue une agression sexuelle sur elle, là, ça a été une longue partie du témoignage.
Ça, c'est la fille de 14 ans?
Oui. Elle qui dit qu'elle a fait un trip à trois, là, avec ses deux coachs. Ouais. Ça, c'est ça qu'elle allègue. Et lui dit... que c'est vrai qu'il a eu des relations sexuelles avec elle, c'est comme ça qu'il l'appelle, mais lui maintient qu'elle avait 16 ans. Puis là, ici, il y a comme une petite pogne, parce que 16 ans, c'est l'âge de consentement. Toutefois, si tu as 16 ans, puis il y a un certain abus d'autorité ou abus de confiance, une situation où l'adulte est en position d'autorité par rapport à toi, ben c'est plus l'âge du consentement.
C'est pas le même consentement.
Là, c'est devenu 18.
Donc, à partir du moment où tu es un entraîneur, tu es en position d'autorité.
Il va falloir le plaider.
OK. Ça a été, j'imagine qu'il y a eu des échanges là-dessus.
Oui, puis mais ça va être beaucoup plus en plaidoirie, mais je veux dire, on a juste à regarder les nouvelles. Il y a plusieurs coachs de certains sports qui ont été condamnés dans les dernières années.
Même très récemment.
Et même sévèrement. Mm-hmm. Donc, ça va être approuvé.
Est-ce que lui reconnaissait être en position d'autorité en tant qu'entraîneur?
Il dit qu'aujourd'hui, il comprend ce que c'est l'autorité, mais qu'à l'époque, dans les années où c'est arrivé en 2012, il ne savait pas c'est quoi, puis il pensait pas à ça, puis il disait que pour lui, c'était son ami, puis il était en amour avec elle.
Il est en amour avec une jeune fille de 14 ans?
Oui.
OK.
Puis il maintient qu'ils n'ont pas eu de relation sexuelle jusqu'à temps qu'elle ait 16 ans. Mais il dit qu'ils se sont échangés des messages à caractère sexuel durant plusieurs années. Il avoue beaucoup de choses. Okay. Mais pour lui, il compare sa relation avec cette plaignante-là comme Roméo et Juliette, par exemple.
Oh!
Ouh! OK. Roméo et Juliette, ça finit-tu avec un trip à trois?
Non, ça finit avec une tragédie.
Y a-tu des mineurs dans Roméo et Juliette?
Oui, mais ils meurent.
Ah, bon, d'accord.
C'est un homme qui s'exprime beaucoup. Mm-hmm. Il est très volubile. Il donne des explications pas pour justifier, mais pour expliquer ses gestes un peu. Puis il met tout le temps dans un contexte. À chaque fois qu'il y a une question, il faut qu'il nous mette un contexte pour y répondre. Parce qu'il dit que hors contexte, ça semble évidemment peu glorieux, pour reprendre ses mots.
Ce qui n'est pas faux.
Mais avec contexte, on comprend plus. C'est ce qu'il essaye d'expliquer.
On a beaucoup parlé de ce type-là comme étant un gourou.
Ouais.
Est-ce qu'il y a eu à s'exprimer sur, je sais pas, moi, sa spiritualité ou le genre de choses qui font en sorte qu'on le considère un petit peu comme un gourou? Ouais.
Oui, il est revenu là-dessus. Il a dit que ici, ben à l'époque, il y croyait beaucoup plus.
Mm-hmm.
Aux chakras, aux fantômes, aux esprits, okay. À la lecture d'aura. Ouais. Et puis, le temps en prison lui a fait réaliser beaucoup de choses. Donc là, il estime qu'il est moins là-dedans, mais il continue à affirmer qu'il a un certain don pour lire les auras des êtres humains.
Est-ce que des auras peuvent se déplacer? Est-ce que...
Il a fait référence à ça pendant son témoignage. Il disait qu'avec, justement, certaines plaignantes, il pensait... La même chose, il croyait aux esprits, il allait souvent dans les cimetières pour chercher les fantômes. Certaines conversations qui sont déposées en preuve entre eux, où c'est à caractère sexuel, souvent, il fait référence aux auras pour expliquer pourquoi il s'échangeait des messages sexuels. Il disait que c'était les auras qui agissaient ou qui parlaient dans ce contexte-là. Là.
Des auras qui venaient le voir lui ou...
C'est long à expliquer, mais c'est peu clair. Mais pour lui, il disait que parfois, il y avait des gestes sexuels qui étaient faits avec l'esprit de l'autre.
Oh.
Donc,